Bonjour Jean-François Froger.
Bonjour Pierre-Éric.
Nous nous retrouvons donc pour poursuivre notre découverte du récit de la création, donc une neuvième émission, ce récit que nous rapporte le livre de la Genèse. Alors nous essayons au fil de ces émissions de toujours entrer dans l'intelligence de cette intentionnalité de Dieu, c'est-à-dire nous communiquer une parole inspirée qui nous permet de comprendre le sens de la création et comment l'homme advient, voilà, comme personne libre, consciente et pouvant entrer aussi dans une relation avec ce Dieu qui lui parle. Donc nous avons vu les trois premiers jours de la création, alors nous ne reviendrons pas aussi dans le déroulement des jours suivants, mais sur ce que nous avons présenté dans les émissions précédentes. Nous en étions donc, lors de notre dernière émission au quatrième jour, que nous n'avons pas achevé, dans son explication. Alors je rappelle quelques éléments que vous nous avez communiqués. Donc ce quatrième jour fait apparaître la notion d'intentionnalité. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas d'intention, mais seulement des instruments. Voilà. Donc des instruments qui sont au service d'une intention de Dieu pour l'homme, et donc d'une intention aussi pour l'homme. Nous apprenons donc que les objets que sont les luminaires décrits dans ce quatrième jour, luminaires présents dans le ciel, vont servir de signes, nous montrant autre chose qu'eux-mêmes. Le quatrième jour nous introduit donc à la connaissance symbolique, alors nous allons en reparler, car toute chose doit être signe. Alors le langage, vous nous avez aussi donné cette information, le langage ne peut pas être une chose individuelle, il est au service d'une relation, et donc l'être social est antérieur à l'être individuel. Donc je commencerai par une question. Ce quatrième jour, donc, nous introduit-il au rituel? Que pourriez-vous nous dire? Et là je vais devancer, mais vous en aviez aussi parlé lors de l'émission précédente. Ce rituel, eh bien, engage-t-il déjà une sortie du cycle, ce qui a été dit à propos de la semence? Et puis bon, ça fait deux questions dès le départ, mais vous arrangerez les choses comme il vous semblera bien de le faire. Et est-ce qu'il faut une assemblée du peuple pour qu'une parole ait lieu?
Oui, alors, c'est la première chose à bien comprendre, c'est que un langage ne peut pas être l'invention ou la pratique d'un individu. Ne serait-ce que parce que c'est intentionnellement le fait de vouloir communiquer qui nous oblige à avoir des mots pour désigner les choses et les communiquer, ces mots, à défaut des choses justement, à l'autre. Donc le langage est par essence en lui-même quelque chose de collectif. Alors évidemment, il y a sans doute, pour qu'un langage puisse naître, un minimum dans le nombre des gens qui parlent une langue. Alors, il faut distinguer donc la parole, qui est en nous une instance spirituelle, la langue, le fait d'avoir un langage plutôt, et ensuite la langue dans laquelle ça s'exprime. Donc par exemple, tout homme est ordonné à la parole, on expliquera un peu mieux ce que ça veut dire quand on arrivera au sixième jour d'ailleurs. Tout homme est capable de langage, mais ça c'est propre aux animaux, mais notre langage à nous est informé par la parole, c'est pas simplement une communication d'impression, c'est aussi une communication intellectuelle. C'est-à-dire, dès qu'on a des mots pour désigner des choses, c'est un acte de l'intelligence, c'est pas simplement un acte de la sensibilité. Tandis que de pousser un cri parce qu'on a mal, ça c'est une expression de la sensibilité, que l'autre comprend aussi d'ailleurs. On peut rentrer en compassion quand quelqu'un éprouve et exprime qu'il a mal. Mais ça n'est pas encore le langage articulé, le langage qui va être informé par une parole intelligente. Et simplement, ne serait-ce que décrire un paysage en disant « je vois la montagne avec le ciel bleu », pour dire que c'est beau en Provence, ce sont des mots qui décrivent bien des choses, mais qui passe au-delà de la sensibilité vers un universel, à savoir que les mots, dans quelque langue que ce soit, doivent pouvoir désigner de vrais objets. Alors ça serait long d'entrer dans la technique même de ce que c'est qu'une langue. Mais donc, bien distinguer qu'on peut parler beaucoup de langues, on n'est pas lié à une langue précise. En ce moment, nous parlons français, on pourrait parler hébreu ou allemand. C'est un peu différent, puisque c'est une autre façon d'aborder cette chose qui est commune à tous les hommes, à savoir d'avoir un langage intelligent, et pas simplement un langage exprimant la sensibilité. C'est, voilà. Et évidemment, tout cela ne tient que parce qu'il y a une instance beaucoup plus difficile à sentir et à comprendre, qui s'appelle la parole, et que nous, nous projetons analogiquement sur la divinité même, en disant au commencement est la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Mais là aussi, ça, pour comprendre ce genre d'énoncé, il faut faire un long chemin pour bien distinguer d'abord en nous-mêmes ce que c'est que qu'un langage. Et ensuite, qu'est-ce que ça peut être qu'une parole humaine ? Alors une parole humaine est nécessairement collective. Donc c'est le corps, corpus, le corps des hommes mis en société, forcément, qui parle. Et chaque individu faisant partie de ce corps apprend à parler par ce corps. Alors nous, nous avons appris à parler avec les parents qui étaient autour de nous, ou les gens qui étaient autour de nous. Nous parlons parce que ça parlait autour de nous. Donc la parole, déjà, et le langage même, et la langue alors est spécifiée, nous parlons français parce que nous sommes nés ici en entendant parler français. Sinon, on parlerait chinois étant né à Shanghai. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose de commun à travers la diversité des langues, c'est la capacité au langage. Alors nous avons vu que cette capacité au langage tient à la façon dont nous pouvons faire des analogies, et ça nous avons vu le troisième jour. C'est, alors, comme je rappelle, les six jours de la création sont six étapes révélées sur ce que c'est que l'homme, parce que ça aboutit à l'homme. Pourquoi les six jours? Pour arriver à l'homme. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'homme? Eh bien, il faut certainement, comme on a vu, distinguer la nuit du jour de la lumière. On a vu ce que ça voulait dire. Distinguer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On a vu ce que ça voulait dire. Faire paraître la terre et l'eau bien séparées entre la mer. On a vu, avec une notion de logique qui est liée. Ensuite, à la fin du troisième jour, l'apparition de l'herbe et des arbres, et la façon dont c'est raconté, c'est une image pour nous faire comprendre les racines du langage. Vous voyez, racine, c'est une image végétale. Les racines du langage qui sont de faire des classes d'objets et des classes de classes. Vous voyez, ça, on l'a expliqué. Il faut reporter nos auditeurs au troisième jour. Donc, ce sont les capacités qu'il faut pour qu'il y ait de l'homme. Alors, donc, ça va être commun à tout homme, puisque c'est quelque chose de collectif. Il n'y a pas encore d'individu, là. Ça va s'individuer dans les décisions au sixième jour. Mais là, nous sommes donc dans ce qui fait l'homme, la nature humaine qui nous est racontée à travers toutes ces images.
Ce qui est
donc
important, c'est quand vous dites faire de l'homme, c'est permettre à l'homme d'entrer dans une connaissance.
C'est, oui. Voilà, qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Voilà. Qu'est-ce qui nous distingue de tout le reste finalement? Alors on va voir que on a en commun tout avec la création, et donc on va arriver au cinquième jour avec certains animaux, et même le sixième jour, il y a toutes les bêtes qui précèdent l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va voir quelles sont des formes que nous intégrons et que nous dépassons, que nous transcendons. Alors souvent ça on ne le voit pas, mais la révélation est faite pour ça, pour nous enseigner des choses qu'on n'aurait pas imaginées autrement. Et c'est un livre d'anthropologie extraordinaire, les six jours de la création. Et donc nous sommes étape par étape dans, en quelque sorte, ce qui va faire naître de l'homme, la nature humaine qui est décrite dans la figure de Adam qu'on verra le sixième jour. Donc on n'en est pas là, mais il y a une chose très importante, c'est que ayant la capacité d'en fond au langage, il faut accéder à la capacité à la parole. Et il faut pas simplement pouvoir répéter ce qu'on a appris, mais avoir cette espèce d'autonomie de la production du langage au niveau collectif. Parce que là aussi, c'est toujours la nature humaine. Eh bien, un des processus, c'est pas simplement l'analogie et la logique qu'on a vu le troisième jour, mais ça va être le symbolisme qu'on voit le cinquième jour, qu'on va reprendre, c'est-à-dire transformer les choses en signes et la ritualisation qui est l'acte, on va y revenir, qui permet aux hommes de vivre en société. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être social? Et la dernière fois, nous l'avons dit juste en fin d'émission, effectivement, il est posé en quelque sorte dans la nature humaine d'être d'abord une société avant d'être des individus en société. Et il faut y revenir parce que l'enseignement que nous avons reçu en général, en tout cas dans nos pays, et en France en particulier, avec le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui est maintenant dans l'évidence culturelle commune. Eh bien, dans le contrat social, on fait une espèce de mythologie pour dire que les hommes étaient des espèces d'individus sauvages mal dégrossis. C'est pas très honorable pour nos grands-parents, mais enfin, c'est ce qu'on nous raconte. Et qui se sont mis ensemble pour pouvoir faire des actions qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls. Autrement dit, il y a d'abord l'homme, l'individu, qui se débrouille comme il peut, et puis pour faire certaines choses, il faut quand même se mettre ensemble. Et ça correspond tellement à quelque chose qui existe effectivement dans les sociétés où les hommes sont tellement individués qu'ils, alors, du coup, supportent le fait social comme un fardeau qui leur est imposé et qu'ils seraient beaucoup plus heureux s'ils pouvaient vivre seuls comme Robinson Crusoe sur leur île. Eh bien, tout ça est tout à fait faux. C'est de la mythologie pure. L'homme n'a jamais été comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un texte comme celui de la Genèse s'inscrit tout à fait en faux et dit tout à fait autre chose. Ce qui est dit, c'est que la ritualité que nous allons expliquer un petit peu est si profondément dans la nature humaine que c'est cela qui lui permet d'être d'abord un socius. Comme on disait tout de suite, la parole est première avant celui qui parle. Parce que nous, on débarque dans la parole. Elle nous précède. Alors, il y a le gros problème que nous n'aborderons pas aujourd'hui, c'est de dire, oui, mais avant, les premiers. Alors ça, si on va regarder ce qui s'est passé en premier, premièrement, nous n'en savons rien. Et deuxièmement, on tombe immédiatement dans un récit mythologique. Et de la mauvaise mythologie, parce qu'il y a de la bonne aussi. Il y a la mythologie inspirée, qui vient rectifier l'imaginaire humain qui projette une espèce de sauvagerie originelle qui n'a aucune raison d'être.
D'autant plus que vous nous avez dit qu'au premier jour, Dieu parle. Enfin, voilà, nous savons que la lumière du premier jour est aussi apparentée à la parole de Dieu.
Bien sûr. Ce qu'on nous dit, c'est que la divinité, c'est ce qui parle.
La parole nous précède toujours, d'une certaine manière, même pour le premier homme.
C'est ce que dit le mythe biblique. Alors je rappelle ce que c'est qu'un mythe, parce qu'il faut le rappeler 10 fois plutôt qu'une. C'est que c'est un récit, donc un ensemble de paroles, à sens caché. Alors, qui est confié d'une façon énigmatique à nos intelligences pour que nous interprétions. Donc, quand on entend une parole mythique, il faut se demander, qu'est-ce que ça veut dire ?
Prenons, Jean-François, une première pause musicale. Vous nous avez choisi une cantate de Buxtehude en l'honneur des membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you. Jean-François, après ce bel extrait, nous reprenons. Donc vous nous expliquiez à l'instant que donc la ritualité permet d'être d'abord pour l'homme un être social. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le rituel pour l'homme ? Et l'homme n'est-il pas rituel dans sa nature humaine ?
Oui, bien sûr. Alors c'est la chose à la fois la plus ancienne et la plus nouvelle, c'est de bien comprendre cette affaire. Alors, le quatrième jour nous dit qu'il faut que les astres, donc le soleil, la lune et les étoiles, entre parenthèses, le soleil et la lune ne sont pas nommés, on verra peut-être pourquoi, vont servir de signes et pour fabriquer des calendriers. Alors, qui fait que le soleil ou la lune ou les étoiles peuvent être des signes ? C'est l'homme. Ils sont pas signes en eux-mêmes. Donc, l'homme, donc, a la capacité d'instituer une chose signe. Et être signe, ça veut dire que on montre une chose pour en montrer une autre. C'est l'histoire du panneau. Vous voyez un zigzag sur un panneau, ça vous signale qu'il va y avoir un virage dangereux un peu plus loin. Le problème, c'est de ne pas trop regarder le panneau pour pouvoir voir ce qui vient, mais ça vous prévient de ce qui vient. Donc c'est ça un signe. Un signe, ça vous montre quelque chose qu'il faut vite abandonner pour voir ce que ça montre. Mais ça n'est pas la chose. Le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas les calendriers. C'est à nous de les construire. Donc la première chose qu'on ait à faire, muni du langage, comme on a dit, c'est d'instituer le rituel fondamental qui est que l'homme est fait pour vivre ensemble. C'est, la ritualité est liée à la sociabilité. Alors, qu'est-ce qui nous rend sociables ? C'est que nous avons des actes à faire en commun qui ne relèvent pas de la biologie. Parce que manger ensemble, les loups savent faire. Les vers de terre aussi. Mais les hommes vont aussi se servir du repas, par exemple, pour en faire un rituel. Parce que manger sans rituel, c'est manger comme une bête. Elle se nourrit, quoi. Et tous les vivants se nourrissent. Un homme ne fait pas que se nourrir. Il profite du fait qu'il a besoin de se nourrir pour en faire un acte social. Ça s'appelle le repas. Alors, le repas est magnifié, si on peut dire, dans ce qu'on appelle le repas de fête. Et effectivement, le calendrier, même au niveau historique, le plus loin qu'on puisse connaître, pourquoi les hommes ont fabriqué des calendriers, pour déterminer le jour des fêtes. Qu'est-ce que c'est que les fêtes ? C'est le moment où tout le monde doit se réunir pour commémorer l'acte fondateur qui les fait être ensemble. Donc la commémoration de la fondation du peuple auquel on appartient, par exemple. Tous les peuples ont ça, toutes les tribus ont ça. Et alors après, ça s'étend jusqu'aux individus. On va commémorer, par exemple, le jour de notre naissance. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour la famille immédiate. Évidemment, on se souvient quand tu es né. Donc nos parents se souviennent quand ils nous ont mis au monde, etc. Les frères et sœurs, ben, il y a l'aîné, il y a le cadet, tout. Ça, parce qu'on se souvient des dates, sinon on ne saurait pas. Hein. Voilà. Et donc, les fêtes vont être extrêmement importantes parce que c'est ça qui fabrique la sociabilité. Donc le rituel, on nous raconte, c'est avant que l'homme paraisse le sixième jour. Donc c'est quelque chose dans la nature humaine, ça veut dire que c'est avant l'individu. Donc le rituel qui forme les hommes est antérieur à leur individualité. Si quelqu'un peut comprendre cette affaire, ça le délivre d'une foule de problèmes par rapport à ce que c'est que la société. C'est pas quelque chose qui se surajoute à nous. Alors qu'ensuite, les sociétés que nous fabriquons, puisque ce sont aussi des actes humains, on a un marteau, on peut s'en servir pour enfoncer des clous. Si on s'en sert pour taper sur le voisin, c'est méchant, ça fait mal. Alors on va rejeter les marteaux parce qu'il y a de la méchanceté dans l'air ? Non ! Il faut dire, ne sois pas méchant. Sers-toi des marteaux pour ce que c'est faire. Le rituel, c'est ça. On peut s'en servir très mal aussi. le problème là. Mais la méchanceté de l'homme, ça viendra après. Ça viendra après la chute. Il faut d'abord considérer l'homme avant la chute pour pouvoir juger des choses. Comment ça marche bien? Quand on fête. Donc, il ne peut pas y avoir d'homme sans société. Il ne peut pas y avoir de société sans fête. D'où l'importance extraordinaire qu'ont les fêtes dans une société. Alors, pour nous, où dans nos sociétés, on a séparé le religieux du civil, enfin de la vie politique, disons. Il y a double fête. Il y a les fêtes civiles, les fêtes religieuses. Évidemment, dans un peuple ancien, il n'y a pas cette division. Les peuples, par exemple, Pâques, Pessah, qui est la fête dans le peuple hébreu, est une fête religieuse. Donc c'est identiquement la fête des Juifs, comme on dit, et la fête universelle de Pâques. Alors, quelquefois, l'identification est trop forte, parce que du coup, on va ethniciser ou réduire à son clan, en fait, une fête qui regarde toute l'humanité. Parce que, alors, il faudrait reprendre ce que c'est qu'une fête. Je rappelle pour certains auditeurs que nous avons fait une série d'émissions sur RCF, une dizaine d'émissions sur ce que c'est qu'une fête, et les fêtes, en particulier les fêtes religieuses, dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Pâques, Pentecôte, etc. Mais la fête est constitutive du peuple. Donc, un peuple qui ne ferait pas de fête, c'est-à-dire de réunion où tous les membres sont conviés, est même obligé de venir. Parce que celui qui ne participe pas à la fête, en fait, se coupe du corps, se coupe de la société. Dit, moi, je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Eh bien, soit, mais alors tu es un étranger. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Ça serait de faire la fête en commun. C'est absolument capital. C'est le rituel fondamental pour l'homme. Tous les autres rituels vont être la déclinaison de cette ritualité de l'âme et de la nature humaine. Alors, on peut voir ça dans plusieurs domaines. Évidemment, vous comprenez, c'est le quatrième jour, il y a encore 5-6 avant d'arriver à l'homme complet. Mais c'est tellement important qu'on va regarder quelque chose de plus. C'est que c'est lié au fait d'avoir à instituer des choses signes. Donc nous avons à mettre en commun le symbolisme, c'est-à-dire faire que les objets soient signifiants d'autre chose que ce qu'ils sont, ça fait bizarre quand même, hein, on va comprendre, et le rituel.
Et la parole, comment elle s'inscrit.
Et la parole, voilà. Donc nous avons un lien à faire que nous propose ce quatrième jour, ça doit réveiller en nous quelque chose d'extrêmement profond. C'est dans notre nature. Donc ce que je raconte n'est pas une chose étrange, c'est quelque chose qui doit faire résonner des choses en très grande profondeur. Voilà. Et pour expliquer le lien du symbole, du rituel et de la parole, il y a un texte dans la Révélation. Vous comprenez que tout n'est pas dit en quelques lignes dans les 6 jours. Il y a toute la Bible pour expliquer ensuite. C'est gros. Donc on va aller chercher dans ce texte quelque chose qui explicite ce que je suis en train de dire, qui est dans le quatrième jour. Et c'est le texte du songe de notre père Jacob.
Et bien avant de découvrir ce texte, je vous propose une seconde pause musicale. Thank you. Donc pour comprendre l'articulation entre le rituel, la parole et le signe, donc nous écoutons ce texte qui est extrait lui aussi du livre de la Genèse, donc le songe de Jacob. Jacob sortit de Beersheba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit et fit son chevet, et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel, des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit : Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que j'ai dit. » Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria « Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria « Que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva et de bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais auparavant, le nom de la ville était Luz.
Voilà. Merci. Oui, ce récit est capital. Alors, nous l'avons déjà commenté sur RCF dans une série d'émissions sur les alliances. Donc, on peut s'y reporter. Donc, on ne va pas expliquer tout le texte, mais en prendre uniquement ce qui nous intéresse pour le quatrième jour, à savoir le lien que vous avez dit entre le signe, la parole et le rituel. Parce que c'est un exemple magnifique. Donc, on voit Jacob dormir sur une pierre. Il choisit une pierre quelconque, enfin pas tout à fait quelconque, parce qu'il faut pouvoir y dormir. Et donc, il faut qu'elle soit relativement allongée pour qu'il puisse mettre le plat de la tête sur cette pierre. Parce que sur un caillou tout rond, on ne peut pas dormir, c'est impossible. Donc là, il a choisi déjà allonger, ce qui va permettre, mais il n'en sait rien pour le moment, de la relever, parce que pour faire une stèle, il faut ériger la pierre. Donc nous voyons qu'il va y avoir une transformation de la pierre, mais au niveau du sens, évidemment, la pierre reste de la pierre. Donc la pierre sur laquelle Jacob a mis sa tête pour dormir, là, il a un songe. Quand il se réveille, il est étonné par ce qu'il a vu et entendu en songe. Il n'en doute pas, donc il faudrait expliquer pourquoi. Il sait que là, s'est passée une révélation capitale pour lui et la proposition d'une alliance que Dieu lui fait, de l'accompagner partout, etc. Et ensuite, Jacob va ratifier cette alliance. Donc l'alliance, c'est bien un rituel. Déjà, hein, c'est fondamentalement un contrat, je te ferai ça, tu me feras ça. Hein. Donc là, l'alliance, elle va, si tu fais tout ce que tu as dit, bah, tu seras mon Dieu. Autrement dit, c'est l'adoption par l'homme de sa divinité. D'habitude, on voit des choses, la divinité qui adopte l'humanité. Mais il faut que ça marche dans les deux sens. Donc là, on le laisse un peu dans l'ombre, mais... Ensuite, Jacob s'éveillant, c'est-à-dire prenant conscience de ce qu'il vient d'apprendre en songe, c'est-à-dire inconsciemment, il y a une espèce d'éveil, là, qui est figuré par se réveiller de son sommeil, d'éveil à une réalité, et il va ériger la pierre sur laquelle il dormait. Il va la mettre droite, comme les menhirs en Bretagne et ailleurs, hein. L'érection d'une pierre levée. Il ne va pas se contenter de l'élever, il va aussi loindre, faire couler de l'huile sur son sommet, sur sa tête, parce que sommet et tête, ça se dit de la même façon, c'est roche en hébreu. Bon. Eh bien, voilà le paradigme, l'exemple parfait d'un rituel. Et en même temps, d'instituer une chose, qui est une pierre, en tant que signe. Mais il faut, vous voyez, c'est, la chose ne devient pas signe par elle-même. Il y faut un acte humain qui est là d'avoir une pierre couchée et de la mettre verticale. Parce que si on voit une pierre levée, on se dit, c'est pas naturel ça, c'est un homme qui l'a fait. Donc il y a une signature. Et on sait d'ailleurs que c'est une activité que nos ancêtres ont eue, puisque des pierres levées, il y en a partout, en tout cas sur le continent eurasiatique, depuis la Bretagne jusqu'au Japon. Mais c'est quelque chose d'universel. Qu'est-ce qui prenait aux hommes de dresser des pierres? Alors maintenant, on fait des choses un peu plus sophistiquées, simplement. On construit des cathédrales, mais c'est bien dresser des pierres. On fait des monuments, mais c'est bien dresser des pierres. Les monuments qui restent, la pyramide, c'est beaucoup, beaucoup de pierres, mais c'est dresser une pierre. Vous comprenez que tout ça, c'est du même ordre. Et c'est un rituel fondamental. Sinon, les hommes ne feraient pas ça de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, parce que ça se fait partout.
Et pour faire mémoire donc de l'événement, alors la parole intervient à quel moment justement pour, parce que là on pourrait dire c'est simplement Jacob qui a eu un songe et puis qui érige une pierre et où est la communauté?
Elle est partout, je vais vous montrer. Alors évidemment le songe est parfaitement individué, là c'est Jacob, bon, très bien. Sauf que une pierre levée, ça signale qu'il y a quelque chose, mais quoi? Il y a un monument, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors soit il faut écrire dessus, là on fait les hiéroglyphes, soit il faut une tradition orale pour raconter ce qui s'est passé. Autrement dit, il n'y a pas de monument sans un récit lié. Le signe est là, mais il faut savoir ce que ça signifie. Et même un signe, un panneau de la circulation, ben, il faut apprendre le code, parce que souvent, ça ressemble à ce que c'est, donc on imagine ce que ça veut dire. Mais souvent, si on n'apprenait pas, on ne saurait pas du tout ce que ça signifie. Donc il faut un récit qui vienne accompagner le signe de la chose qui est posée devant nos yeux. Donc il faut un rituel, et la parole est ipso facto nécessaire pour transmettre la signification de ce signe. Donc, on institue une chose en signe, ça fait parler. Et ça va faire parler dans les siècles des siècles, parce que c'est fait pour être répété aux générations futures. Donc, il y a un récit. Alors, le récit peut être à sens caché. Le récit peut être tourné à droite, il n'y a aucun sens caché, il faut tourner à droite. Voilà. Mais, on dit, là, Jacob a eu un songe. Ah ben, il faut interpréter. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi il a eu un songe en dormant sur une pierre? Pourquoi il a érigé cette pierre? À cause de la pierre. On vous montre la pierre. Attention, c'est un signe. Elle signale quoi? Un acte humain de relèvement. Qu'est-ce qu'il y a à relever? Alors, il y a l'image du sommeil et de l'éveil. Quand on dormait, on était couché, après on se lève. Bon, donc il s'agit de l'éveil humain. Mais à quoi? Sur quoi on dort et qu'on ignore, malgré qu'on ait la tête dessus? Sur ce que symbolise la pierre. La pierre est signe d'autre chose, de ce que c'est, de sa matérialité. Mais, à cause des analogies, on sait depuis le troisième jour faire une analogie, on va pouvoir faire un rapport à cette pierre est dure. Mais dans le monde intelligible, il y a des choses difficiles, dures. C'est permanent, on peut graver pour l'éternité sur une pierre. Façon de parler, mais quand même. Mais alors qu'est-ce qui, dans le monde intelligible, est invariable, dur pour l'éternité, etc. Alors je vous donne le résultat, il faut plusieurs heures de travail pour vraiment l'assimiler. Il s'agit de la vérité. La pierre symbolise la vérité. La vérité qu'on ignore, ben on marche dessus, on n'en sait rien. Quand on s'en éveille, quand on la connaît, ah bon, c'est ça que ça voulait dire? C'est ça le vrai de la chose? Alors on était étonné, comme Jacob, il dit, ah, que ce lieu est terrible. Je ne le savais pas. Et lui, il rapporte immédiatement cette vérité immanente. Dans sa vision, on lui dit ce sur quoi tu dors, mais c'est la présence divine. L'échelle qui monte de la terre au ciel. Ah, alors la vérité, ça a à voir avec Dieu. Dieu, ça a à voir avec la vérité. Mais oui, il y a une vérité qu'on ne connaît pas a priori. On dort dessus. Et quand on commence à s'éveiller, l'acte humain qui est de sortir du sommeil, bien c'est d'énoncer la chose. Et donc, on va rentrer dans la parole. La parole intervient à ce niveau-là. Il faut énoncer ce dont on a pris conscience. Sinon, on n'en prend pas vraiment conscience. Donc, on va avoir une vérité proclamée, dite, énoncée, et ça s'appelle la parole. Le verbe divin, c'est la parole vraie énoncée. C'est tout. Je suis la vérité.
Une parole intérieure, finalement, qu'il faut exprimer à l'extérieur.
On peut le
en
dire comme ça.
En ce sens ou sa vision, bon, c'est une forme de parole. Alors effectivement, il n'y a pas forcément de parole dite. Mais en tout cas, cette vision l'engage à agir. Mais
tout langage doit être l'expression d'une chose qui était dans le sommeil, cachée, dans l'inconscient, dans l'inconnu. Et tout d'un coup, on connaît, on devient conscient, on parle. Et on parle à qui ? Mais à son frère.
C'est important.
On parle. Au peuple.
C'est important par rapport à ce que vous disiez sur la parole qui commence de toute façon par une expression de Dieu à l'homme.
Voilà. Bien sûr. Alors ensuite, on va s'apercevoir que cette parole qui jaillit de nous dans notre éveil, elle a son origine dans une parole que Dieu dit, qui sont les choses. Les choses sont une parole de Dieu. C'est ça la création. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Sans lui, rien n'a été fait. Par lui, tout a été fait. Mais voilà, nous sommes au cœur du problème. Et donc, voyez que l'éveil à la symbolicité d'une chose très particulière, là, qui est la pierre, et du rituel, c'est nous montrer en acte comment ça se passe en nous. Donc c'est quelque chose d'intime. Mais alors, le rituel, on fait un monument pour que la mémoire, en plus, soit informée, et Jacob va oindre d'huile le sommet de la pierre. Mettre de l'huile sur une pierre, ça sert à rien, franchement. Alors là, on voit la ritualité à l'état pur. Mais ça veut dire que ça signale qu'il y a une magnificence supplémentaire. Parce que les choses peuvent être justes et bonnes, mais elles peuvent être très bonnes et belles. Et la beauté va être donnée par l'huile qui coule, parce qu'elle va devenir reflétant la lumière. Et donc c'est insignifiant, ça signifie que c'est l'inspiration divine qui descend et qui imprègne la pierre. Donc la pierre, il ne suffit pas d'énoncer la vérité, il faut que cette vérité soit illuminée par l'inspiration divine. Et alors le travail de l'homme est achevé, il peut entrer dans l'alliance avec Dieu. Parce que l'alliance avec Dieu, c'est un acte divin, mais c'est aussi un acte humain. Alors, on a entendu une parole, il faut la vérifier. Eh bien, si tout ce que j'ai entendu en songe, tu m'accompagneras, tu me rendras, tu me donneras le pain, etc., etc., si ça arrive, tu seras mon Dieu. Donc, c'est, si j'ose dire, de la religion expérimentale. Ça n'est pas du rêve, justement.
Donc, l'inspiration était présente dans ce songe de Jacob, mais il va le manifester en oignant le sommet de la pierre, pour dire que c'est vraiment l'Esprit Saint,
dire,
si on peut dire,
oui,
qui était présent dans
chrétien,
ce songe.
On va l'interpréter ainsi, mais ça y est déjà, bien sûr. C'est que la structure, vous voyez bien que la pierre couchée, c'est une vérité immanente inconnue, qui est à l'origine de tout. La pierre levée, c'est une vérité énoncée, qui ressemble à ce que nous disons en ce moment. Nous énonçons des choses, nous espérons que c'est vrai, parce qu'on est après la chute. Bon. Et nous verbalisons une réalité profonde, mais ça, c'est l'œuvre, effectivement, du verbe divin et du verbe humain, qui sont presque indissociables. Et évidemment, la magnificence de cette parole, et qui va porter son sens et sa lumière, c'est l'Esprit divin qui descend. Et c'est toujours une descente. Et donc, nous voyons dans le songe de Jacob une révélation de la Sainte Trinité. Rien de moins.
Merci beaucoup Jean-François pour cette interprétation d'un beau texte.
Qui résume alors ce quatrième jour sur ce lien entre le signe symbolique, le rituel et la parole. Donc nous sommes mûrs pour aller voir le cinquième jour.
Que nous découvrirons lors de notre prochaine émission. À bientôt Jean-François.
À bientôt Père Éric.